société, sensibiliser nos collaborateurs par de l'affichage dans les locaux, et on a créé un challenge sécurité pour encourager les bons comportements sur la route, avec bien sûr l'attribution d'une prime de fin d'année en bon d'achat.
Merci beaucoup.
Pour participer aux journées de la sécurité routière au travail, rendez-vous sur sécurité-routière.gouv.fr.
Le changement climatique est une réalité, la transition énergétique une nécessité. Pour transporter les gaz renouvelables, l'hydrogène et le CO2, GRT Gaz, opérateur national de transport de gaz, adapte son réseau et devient Natran. Du lundi au vendredi, dans la matinale de Radio Classique, Natran vous présente le journal de l'écho à 6h47. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
20h, le journal du classique avec Laure Maison, depuis le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Avec le CIC, partenaire fondateur.
Bonsoir à tous et bienvenue au Grand Théâtre de Provence où nous poursuivons notre résidence dans le cadre du Festival de Pâques avec un fidèle public qui nous tient compagnie tous les jours. Merci à vous d'être encore avec nous. C'est avec Renaud Capuçon et Kylian Soltani que nous allons passer un petit moment ce soir. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir. Bonsoir.
Vous jouerez tout à l'heure sur la scène du Grand Théâtre de Provence des trios de Brahms et de Schubert avec le pianiste Mao Fujita. C'est un trio que vous formez depuis quelques années, tous les trois. Comment est-ce qu'il est né, ce trio avec Mao Fujita, Renaud?
On se connaît, on s'estime tous les trois beaucoup, je crois. Non, plus sérieusement, on s'est rencontrés à Tsinandali. On a joué ensemble la première fois à Tsinandali, un festival en Géorgie. Et ensuite, l'idée est venue de poursuivre. Et on a joué cette saison déjà en Espagne et puis à Vienne. Et on va poursuivre pendant toute l'année 2025 dans nombreux festivals. Et c'est intéressant de voir qu'un pianiste japonais, un violoncelliste iranien et un violoniste français puissent faire de la musique de Schubert et de Brahms avec le même langage, même si on est tous les trois très différents. C'est un peu ce que j'aime dans la musique, c'est qu'on n'a pas besoin de mots pour faire passer des messages.
Et qu'est-ce qui crée justement ces affinités musicales, cette alchimie qui fait que à trois cela fonctionne de façon si évidente presque, Kylian?
Ouais.
Si on peut l'expliquer.
C'est difficile en français. Je peux parler un peu français, mais très basique. Je pense que c'est important que pas seulement sur la scène, mais aussi quand on répète ou quand on mange ensemble ou parle ensemble, nous sommes amis. C'est correct comme ça? Et ça, c'est très important pour faire la musique de chambre, que on est amis. Parce que la musique de chambre est comme une conversation, entre les amis. Mmh. Et quand je joue avec Renaud et Mao, c'est comme une conversation. Et on parle pas beaucoup avec les mots sur la scène ou dans les répétitions, on vraiment faire la composition dans la musique. Et c'est pas nécessaire d'expliquer beaucoup. Ici, je veux prendre le temps ou ici, est-ce que tu peux attendre pour moi? C'est pas nécessaire de tout. On fait ça spontanément dans la répétition et sur la scène et ça marche très, très bien parce que nous sommes amis. Oui.
Parfait, bravo, votre bravo. Français est formidable.
Bon, j'ai jamais entendu parler de français de ma vie, donc c'est bien. Alors on va faire toutes les répétitions en français maintenant. Oui, oui.
On a un traducteur avec nous, donc si vous voulez switcher sur l'anglais, il n'y a pas de souci, mais on est ravis de vous entendre parler français. La formation trio, c'est une formation particulière, on est dans la musique de chambre, mais en même temps, chaque individu s'exprime, chaque musicien s'exprime de façon très individuelle. C'est une formation particulièrement exaltante, Renaud Capuçon.
Moi, j'adore le trio. Je trouve que c'est une formation où on peut justement mettre trois personnalités. C'est très différent du quatuor à cordes qui demande un vrai investissement sur des années et des répétitions extrêmement fournies. Ce qui ne veut pas dire que pour le trio, on ne travaille pas. Mais ça veut dire qu'on peut mettre au service de la musique plus instantanément trois personnalités très différentes. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Hein. On peut mettre parfois des gens qui sont très différents et parfois il y a des rencontres qui sont inédites et qui doivent le rester. Parce que c'est la mixture ne prend pas. Mais quand ça fonctionne, alors c'est merveilleux.
Et c'est vrai que vous nous avez offert des moments assez extraordinaires. Il y a un concert dont je me souviens particulièrement. Je ne suis pas la seule. C'était il y a quelques années, en 2018, tout à côté d'ici, au Conservatoire Darius Milhaud d'Aix-en-Provence. Vous étiez Renaud Capuçon et Kian Soltani avec un autre partenaire, Lahav Chani. On va se replonger quelques instants dans ce concert. Le début du trio Opus 50 de Piotr Tchaïkovski avec Renaud Capuçon, Kian Soltani et Lahav Chani. Et Renaud Capuçon et Kian Soltani qui sont avec nous ce soir sur Radio Classique. Vous vous souvenez de ce concert? C'était en 2018, ici dans le cadre du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, Renaud Capuçon.
Bien sûr, on s'en souvient très bien, d'autant plus que c'est la première fois qu'on a joué ce trio ensemble et que c'était absolument pas prévu d'être un enregistrement. C'était vraiment un concert qui était enregistré et capté par la radio. Et en fait, c'est en entendant l'enregistrement. Et déjà après le concert, on avait senti que c'était un concert spécial. Et on s'est dit, écoutons et voyons si ça peut peut-être être possible de le mettre sur un disque. Et c'est vraiment un disque sans patch, c'est un disque absolument live. Et ça fait partie des moments, non seulement dont on se souvient, mais dont on peut être fier parce que c'est un moment d'une vie, c'est une prise de photo. C'est un moment musical qui reste un moment de communion avec le public et entre nous aussi. Et on est très amis avec Lahav, on a beaucoup joué aussi avec lui. Entre-temps, il est devenu le grand chef que l'on sait, le chef d'Israël Philharmonique et de l'orchestre de Munich maintenant. Et on joue aussi en soliste avec lui, et c'est un des musiciens les plus complets de ce siècle, je pense. Donc c'est génial de jouer ensemble.
Et de votre côté, Kian Soltani, quels souvenirs gardez-vous, quelles émotions de ce concert?
Oui, c'était mon première fois jouer dans ce festival comme how do you say, grown up.
Adulte.
Comme une adulte artiste, parce que la première fois que j'étais ici, j'ai joué au Génération AX. C'était un concert pour les jeunes artistes. C'était la première fois d'être ici. Et ça, le concert avec Renaud et Lahav, c'était mon première fois comme une adulte artiste. Et c'était très spécial de jouer ici et directement avec le chef de festival. C'était un souvenir très spécial.
Vous avez grandi avec le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, alors?
Oui, c'est presque 10 ans maintenant.
Et vous jouez avec Mao Fujita, ce jeune et merveilleux pianiste japonais. Vous jouez ce soir Schubert et Brahms, les premiers trios. Deux œuvres emblématiques, deux œuvres du grand répertoire. Comment aborde-t-on ce genre d'œuvre, Renaud Capuçon?
Comme l'a dit Kian tout à l'heure, je crois que la plupart du temps, quand on est entre musiciens, la conversation, elle est musicale et on travaille, mais dans le travail, on joue, on s'écoute. On se renifle, on essaye de deviner ce que va faire l'autre. Et il y a assez peu de prise de parole, finalement. C'est très peu de décisions musicales qui sont parlées, discutées. Si on joue ensemble, c'est qu'on a déjà des affinités à la base. Donc, on s'admire et on se respecte musicalement. Donc, tous les ingrédients sont mis en place pour qu'on puisse servir la musique. Donc, ensuite, ce sont des, bien sûr, on affine les tempi, on affine les ralentis, les couleurs, on se donne des idées. Mais la plupart du temps, ces idées, elles sont pas exprimées avec des mots, mais elles sont suggérées. Et comme on s'écoute de façon extrême, on anticipe les désirs de l'autre. Et ça revient exactement à ce qu'a dit Kian tout à l'heure. Le fait d'être ami et d'être capable d'avoir une conversation à table, d'avoir une conversation amicale, c'est retranscrit dans la musique de chambre. Et je crois que pour le public qui aime la musique de chambre, peut-être inconsciemment, apprécient ça aussi, cette espèce d'immédiateté. Et ils ressentent dans la musique, au travers de la musique, le fait que trois ou quatre ou cinq artistes conversent finalement de façon ouverte, comme un pique-nique en plein air. Et vraiment, il y a quelque chose de... C'est l'esprit un peu des Schubertiades. C'était vraiment ce qu'il y avait, que Brahms faisait aussi, cet esprit de collégialité dans la musique. Et la musique de chambre, c'est ça. Et quand on arrive à la faire coïncider avec une pièce d'orchestre, quand on arrive à avoir cet esprit de musique de chambre dans un orchestre, qui arrive souvent quand on fait la musique, alors c'est aussi un bonheur total, parce qu'on arrive finalement à jouer un concerto ou une symphonie dans le même esprit de convivialité musicale, une sorte de compagnonnage musical. Et c'est un petit peu, c'est pas un peu, c'est exactement ce que j'ai voulu quand on a construit ce festival avec Dominique Buzet, c'était qu'il y a à la fois des jeunes, des grandes stars comme Martha Argerich, des jeunes comme Kian à l'époque, qui sont devenus finalement en quelques années eux-mêmes des stars. Quand je dis stars, ça veut dire des grands musiciens. Et tous ces gens qui finalement sont là pour la seule raison, même raison, c'est de partager la musique avec un public et qui vient avec ferveur depuis toutes ces années pour ces mêmes raisons.
Alors, on sent une grande amitié entre vous. Vous nous l'avez confirmé, une amitié humaine, une amitié musicale. Vous avez plusieurs points communs. Il y a un homme, notamment, qui vous réunit, un immense musicien, c'est Daniel Barenboim. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Kian Soltani, Daniel Barenboim? C'est un mentor, c'est un modèle, c'est un partenaire, c'est un...
Yeah, maybe I'll do this in English. So.
Oh,
yeah, so of course, a great mentor.
Vraiment, c'est un mentor.
For me, he is one of the artists that
des artistes
is as complete as you can possibly
qui est aussi complet qu'on peut l'être.
Not only a phenomenal pianist,
pas seulement
of course,
un pianiste phénoménal, mais également un incroyable chef d'orchestre qui a cette connaissance de la musique
possible.
Sous tous les angles possibles.
Like
il a également étudié l'harmonie, la composition avec Nadia Boulanger à Paris lorsqu'il était adolescent. Et tout ceci se retrouve quand il donne ses spectacles, lorsqu'il joue, ou quand il enseigne, parce que j'ai suivi ses cours. J'étais chanceux de pouvoir jouer avec lui, mais également de pouvoir profiter d'apprendre de lui en formation. Et donc, les concertos majeurs comme Dvorak, Schumann, Haydn, j'ai travaillé travaillé toutes ses pièces avec lui. Et j'ai joué dans son orchestre, le West Eastern Orchestra, si j'ai bien compris, pendant plusieurs années. J'ai joué des répertoires comme Wagner, Tchaïkovski, Symphonie, Beethoven. Donc, je suis vraiment un privilégié d'avoir pu profiter de tout cela, plus de jouer dans des trios avec un piano, de partager la scène avec lui en tant que musicien de chambre, de musique de chambre. Et ce qui est le plus impressionnant pour moi lorsqu'il joue du piano, c'est son contrôle du temps. Il a une incroyable capacité de manipuler le temps sans étirer, sans raccourcir, mais c'est cette micro-gestion du temps qui donne des moments magiques grâce à ça. C'est quelque chose que j'essaie d'apprendre et de tirer le maximum de ce savoir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer en mots. Il faut l'expérimenter soi-même pour pouvoir l'expliquer.
Et on sait, vous aussi, Renaud Capuçon, que vous êtes très proche depuis de longues années de Daniel Barenboim. Vous avez toujours des contacts avec lui. Il a dirigé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, il a fait une apparition sur scène. La musique le porte toujours autant, lui donne des forces.
Oui, bien sûr, je pense que c'est une figure majeure de notre temps qui va marquer et qui continuera à marquer des milliers de jeunes musiciens et le public aussi. C'est l'une des personnalités les plus complètes que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie. Il est maintenant malade et il a cette maladie Parkinson qui soigne, mais il est encore extrêmement. On sent son amour de la musique. Peut-être la seule chose qui est difficile pour nous, c'est de voir qu'il a tellement envie d'être sur scène et que malheureusement il peut de moins en moins. Mais chaque fois qu'il est sur scène, on a ce sentiment de voir qu'il revit complètement. C'est un bonheur incroyable. Donc on lui souhaite bien sûr le meilleur et en tout cas c'est toujours pour moi très important de lui demander encore beaucoup de conseils et il guide et il est extrêmement encourageant et il est au courant de tout et c'est assez merveilleux de voir à quel point il est concerné par tout ça.
Alors vous avez bien d'autres points communs et notamment une curiosité, une ouverture d'esprit. Vous avez tous les deux joué, enregistré de la musique de film par exemple. Pour vous, la musique, Ian Solteni, elle doit emprunter différents chemins. Vous avez besoin d'aller explorer des univers, que ce soit la musique de film, la musique liée aussi à vos origines.
Oui, la musique persan.
Persan.
Pour moi, c'était toujours important. Et je pense que aussi c'est quelque chose de la nouvelle génération. Maintenant, je suis né, peut-être pas quand j'étais né, mais quand j'étais une teenager, la iPhone et Spotify, et YouTube, et les choses comme ça, ils sont, invented. Non, but they were invented.
On était inventés à ce moment-là.
Oui, inventés en ce moment, quand j'étais teenager. Et je pense que c'est pas possible pour un musicien maintenant de ignorer ces choses comme ça et d'avoir la possibilité d'écouter toutes les musiques du monde quand je veux. Et moi, j'écoute tout. J'écoute hip-hop, et techno, et pop, et rock, et j'adore tout ça. Et bien sûr aussi la musique de film. Et oui, je suis spécialiste de musique classique, c'est clair. Mais j'aime faire toutes les musiques. Quand je suis dans ma chambre, je fais toutes les musiques. Je aussi joue un peu amateur jazz ou piano, ou je fais le amateur techno ou computer, ou je fais les songs sur la guitare ou le cello. Je fais cette chose pour la for fun.
Pour le plaisir.
Pour le plaisir seulement, mais je pense que c'est très enriching.
Enrichissant.
Oui, enrichissant pour moi. Et la musique, le film, c'est spécial parce que la musique de film est très close.
Fermée.
Non, close to, proche.
Proche.
C'est très proche de la musique classique, la musique de film, très proche. On peut dire que le... It comes from there. L'origine de musique de film est la musique classique.
C'est clair. La première musique de film, c'était écrit par Camille Saint-Saëns.
Oui. L'assassinat du duc de Guise.
OK. Et pour ça, c'est très proche, et pour ça, c'est très logique pour un musicien classique de faire de la musique de film, parce que c'est la même langue. Et j'adore la musique de film, et c'est pour ça que j'ai fait l'album, et aussi Renaud, je pense. Oui.
Alors, vous jouez de la musique de film, vous jouez du jazz, vous jouez de la pop, du rock, et vous jouez de la musique romantique, vous jouez Schumann, notamment. L'adieu, tiré des scènes de la forêt de Robert Schumann dans un arrangement pour violoncelle et piano avec Kian Soltani au violoncelle et Julien Quentin au piano. Et nous sommes toujours en compagnie de Kian Soltani et Renaud Capuçon dans notre studio du Grand Théâtre de Provence, le lieu emblématique du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Vous avez lancé, Renaud Capuçon, le festival vendredi soir. En tant que chef, vous n'étiez pas violoniste ce soir-là. C'était important pour vous aussi de mettre en avant le chef d'orchestre, uniquement le chef d'orchestre pour ce concert d'ouverture. Qu'est-ce que cela représentait ?
Ça s'est pas présenté comme ça. Il se trouve que j'avais un projet avec l'Orchestre de Toulouse et avec Martha Aguirich, et j'ai trouvé formidable qu'on puisse venir ensuite ouvrir ce festival. Et je trouvais important aussi d'ouvrir ce festival avec deux femmes, parce qu'il y avait à la fois Charlotte Soy qui ouvrait ce programme avec une pièce qui n'avait pas été jouée depuis 1928, Danse Mystique, et puis avec une autre grande dame qui est Martha Aguirich, qui a un âge de plus de 80 ans et qui joue comme une jeune fille de 20 ans, qui joue de façon incroyable. C'est une autre des personnes, on a parlé de Daniel Barenboim, Martha Aguirich, je joue avec elle depuis plus de 25 ans et c'est une de mes plus grandes inspirations. Et ça fait maintenant 4 ans qu'on joue ensemble sous ce nouveau modèle de chef d'orchestre et pianiste.
Et qu'est-ce que cela change au niveau de la complicité?
En fait, ça change musicalement absolument rien. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. On fait la même musique. On se le dit à chaque fois. On se dit que c'est la même évidence musicale quand on est ensemble, finalement. On a la même entente en violon-piano qu'en chef-piano. Et je pense que c'est la personne, selon moi, qui a la plus, je lui ai dit récemment, qui a la plus incroyable assise rythmique. Elle a une assise rythmique qui lui permet de tout faire et d'être d'une liberté incroyable. C'est-à-dire il y a un socle musical et un socle rythmique qui fait que elle peut quasiment improviser, tout est d'une clarté organique totale. Et pour un chef, c'est essentiel, bien sûr, parce que souvent, les solistes peuvent être très libres. Mais quand un soliste est libre et qu'il est organique, pour un chef, c'est merveilleux, parce qu'en fait, on suit une ligne musicale. C'est vraiment l'impression qu'on a quand on l'écoute. Et jouer ce concerto de Beethoven avec elle et l'orchestre du Capitole de Toulouse, avec qui c'était ma première fois en tant que chef. Là aussi, c'était un sentiment étrange pour moi, parce que je joue avec eux en tant que soliste depuis plus de 25 ans. J'ai dû jouer peut-être une quinzaine ou une vingtaine de concertos différents avec eux. Et de me retrouver face à eux sans instrument, mais c'est comme ça qu'on reste jeune, qu'on vieillit pas. Et la retraite, c'est pendant très très longtemps, je pense.
On vous sent bien actif hein, pour le moment. Kyan Soltani, qu'est-ce que cela vous inspire, la double carrière de violoniste et de chef de Renaud Capuçon? Est-ce que la direction, c'est quelque chose qui pourrait vous-même vous tenter, peut-être dans le futur?
Pour moi?
Oui.
En ce moment, je ne peux pas imaginer ça.
Mais dans l'avenir?
If there is some aspect which I would like to do more.
Certaines choses que je voudrais peut-être accentuer, faire
and
plus
develop,
et
and
développer.
Create a different sort of channel of creativity for me. It's
trouver des nouveaux canaux de créativité. Mais c'est peut-être composing. Pas la direction, mais la composition
so
plutôt.
For me, Renaud told me that his dream
Renaud
was
m'a dit que son rêve, ça a toujours été d'être de diriger.
And I think if that is your
et je pense
inside,
que si c'est votre rêve intime, il faut le faire. Je n'ai jamais partagé ce rêve, je n'ai jamais pensé pendant une seconde. Je pense que ce soit une obligation, vous devez brûler de l'intérieur. Pour ça, moi, ce n'est pas un feu intérieur, mais pour la composition, oui. J'ai ce rêve depuis très longtemps, d'être un compositeur. Et quoi que ce soit, moi, je canaliserai mon énergie sur la composition.
Et vous pourriez composer pour Renaud Capuçon, qui crée régulièrement des œuvres. Le message est passé. Alors, Renaud Capuçon, on peut vous apprécier ici en tant que chef d'orchestre, en tant que dans la musique de chambre et en concerto. Vous jouerez dans quelques jours, le 19 avril, avec cette formidable jeune chef hongkongaise, Elim Chan, d'ailleurs, qui est représentée sur l'affiche du festival. Vous avez déjà joué avec elle.
C'est la première fois et on répète demain à Genève et j'ai hâte de la rencontrer. Elle fait partie des jeunes chefs homme ou femme, d'ailleurs, dont on parle le plus et qui a une personnalité et une énergie incroyable.
Et ce sera avec l'orchestre de la Suisse romande que vous connaissez bien.
Absolument, on a enregistré ensemble, on a joué depuis aussi une vingtaine d'années beaucoup de musique ensemble. Et là, c'est un concerto qui est peu joué, qui est
concerto de Strauss,
concerto de Richard Strauss que je défends parce que je trouve qu'il est magnifique et parce que il est injustement non pas négligé pour les mais je pense qu'il est peut-être négligé pour les mauvaises raisons. C'est un concerto de jeunesse et je ne comprends jamais pourquoi on dit que de façon un peu négligente, oui, c'est un concerto de jeunesse, alors que quand on parle de l'opus 15 de Brahms, le premier concerto pour piano, on dit jamais c'est un concerto de jeunesse alors qu'il avait à peu près le même âge. Donc je pense qu'il faut aussi parfois prendre des pièces, les remettre un petit peu au goût du jour, et puis j'espère que la jeune génération aura envie de le jouer.
Voilà ce concerto de Richard Strauss que vous avez enregistré, tandis qu'est paru également tout récemment votre enregistrement du concerto pour violon de Sibelius avec justement l'orchestre de la Suisse romande dirigé par l'un de vos grands complices, Daniel Harding. Thank you. Le final du concerto pour violon de Sibelius avec Renaud Capuçon et l'orchestre de la Suisse romande, dirigé par Daniel Harding. Renaud Capuçon qui retrouvera l'orchestre de la Suisse romande pour jouer le concerto pour violon de Richard Strauss. Ce sera samedi, le 19 avril, au Grand Théâtre de Provence avec Elim Cham. Renaud Capuçon qui est avec nous ce soir en compagnie de Kian Soltani sur Radio Classique. Après le concert de ce soir, Kian Soltani, quels sont vos grands projets? Il y a une tournée notamment avec l'orchestre symphonique de Birmingham.
Oui, et jouer la première fois avec cet orchestre et aussi avec le chef d'orchestre Yamada, c'est la première fois pour moi. Et je suis
un formidable
très heureux.
Chef.
Oui.
Et vous avez des projets d'enregistrement à venir?
Pas des choses concrètes, non. Il y a des idées, mais rien est décidé en ce moment.
Et des œuvres en composition?
Oui, ouais. Ça oui. J'ai les idées et les projets et je veux faire quelque chose, oui.
On a hâte de découvrir vos œuvres. Le festival de Pâques d'Aix-en-Provence, il se poursuit jusqu'au 27 avril. Renaud Capuçon, on aura l'occasion de vous entendre en concerto, ce soir en musique de chambre. Ce concert en trio, d'ailleurs, avec Mao Fujita, vous le redonnerez le 6 juillet au Festival de la Roure. On vous souhaite une très belle suite et fin de festival. Merci infiniment
Merci à
tous les deux d'avoir passé un moment avec nous. Merci à François Fauteux, qui a un petit peu travaillé ce soir pour la traduction. Et merci au public fidèle qui vient nous tenir compagnie ici dans le hall du Grand Théâtre de Provence. Je continue les remerciements. Lucille Metz et Aude-Marie Pilose pour la captation. Demain, nous serons avec la flûtiste Mathilde Calderini et ce journal du classique sera suivi de la retransmission du concert de Léa Desandré avec l'ensemble Jupiter et Thomas Dunford. Très belle suite de soirée qui se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.
Bonjour, c'est Elodie Fondacci. Que diriez-vous d'une nouvelle histoire pour les vacances? Il était une fois une jeune fille appelée Blanche-Neige, qui fuyait une méchante sorcière. Elle trouva refuge dans une minuscule maison, habitée par 77 nains.
Découvrez Blanche-Neige et les 77 nains, la nouvelle histoire en musique d'Elodie Fondacci. Un livre de David Ekali à retrouver aux éditions Talents Hauts. Disponible pour la première fois en écoute binaurale sur toutes vos plateformes habituelles. Vous êtes bien avec Radio Classique.
Les variations de Francis Drezel.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue pour ces variations sur Radio Classique. Et merci à Laure Maison pour son journal du classique. À retrouver demain, bien sûr, à 20h, juste avant, de nouveau, un concert qui sera diffusé en direct du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, un florilège d'œuvres de Georges-Frédéric Händel par l'ensemble Jupiter que dirige Thomas Dunford, avec en soliste la mezzo-soprano Léa Desandré. Ce soir, je vous propose d'évoquer l'un des plus grands violonistes et chefs d'orchestre du siècle précédent, Tibor Varga, dont la discographie se trouve sous divers labels et dont de nombreux enregistrements ont été publiés en une collection Tibor Varga, devenue difficilement disponible, mais qui nous a été confiée par M. Pascal Rybicki, que nous remercions très vivement. D'origine hongroise, Tibor Varga était né le 4 juillet 1921 et nous a quittés à Crémissoua, dans le canton du Valais, en Suisse, le 4 septembre 2003. Le disco portrait à 23h sera donc consacré à Tibor Varga, mais un exemple tout de suite en le retrouvant lors de son propre festival Tibor Varga de Sion, en Suisse également, festival fondé en 1964, venant en quelque sorte accompagner l'académie que Tibor Varga venait de créer, toujours à Sion, dans le Valais, un peu à la manière dont Rudolf Serkin et Adolf Busch avaient créé le festival de Marlborough dans le Vermont. Mais retour en Suisse, retour à Sion, pour écouter le rondo final du cinquième et dernier concerto pour violon et orchestre de Mozart, le concerto en La majeure, Köchel 219, Tibor Varga dirige de son violon son orchestre du festival, le festival Tibor Varga. Les fameuses turqueries de ce rondeau final du 5e concerto pour violon et orchestre de Mozart, le concerto Köchel 219, mais aussi tout le raffinement, la lumière de l'archet de Tibor Varga, qui dirigeait de son violon l'orchestre du festival Tibor Varga de Sion, un enregistrement effectué dans les années 70 et faisant partie donc de cette collection Tibor Varga qui, je vous le rappelle, nous a été confiée par monsieur Pascal Rybicki. Nous y reviendrons d'ailleurs ultérieurement. Tibor Varga a étudié le violon d'abord avec ses parents, puis avec successivement deux violonistes de légende, Karl Flesch et Jenő Ubay, ce qui lui a permis d'intégrer l'Académie Franz Liszt de Budapest. Beaucoup plus tard, c'est en 1956 que Tibor Varga s'est établi en Suisse, et là encore, il a fondé Académie, Festival et Orchestre à Sion, dans le Valais, et puis même une école et un concours. Retrouvons Tibor Varga en 1979, à la tête toujours de l'orchestre du festival portant son nom, le Festival Tibor Varga de Sion, pour écouter la Sinfonia 20 de celui que l'on peut considérer comme le père de l'école suédoise de musique, un compositeur qui a vécu dans la première moitié du XVIIIe siècle, Johann Elmich Roman. Voici cette très belle et très classique Sinfonia de Roman. La Sinfonia 20 de Jan Helmich Roman, ce compositeur suédois de la première moitié du XVIIIe siècle, interprété en 1979 par l'orchestre du festival Tibor Varga de Sion, dirigé par son fondateur Tibor Varga, qui, avant même de fonder cet orchestre de Sion, avait déjà fondé son propre orchestre de chambre en 1954, tandis que vers la fin de sa vie, Tibor Varga allait également assurer la direction de l'Orchestre des Pays de Savoie, de Chambéry-Annecy, de 1989 à 1993. Tibor Varga a bien sûr joué en compagnie des plus grands musiciens de son temps, que ce soit comme soliste ou en tant que chef, par exemple le pianiste brésilien Roberto Sidone, ou les violoncellistes János Starker, que nous écouterons tout à l'heure, ou bien encore André Navarra. Voici d'ailleurs l'Allegro assai final du concerto pour violoncelle et cordes en la majeure de Carl Philipp Emanuel Bach, interprété par André Navarra en soliste et l'orchestre de chambre Tibor Varga, dirigé par son fondateur.
Thank you.